un raisonnement, a fortiori, à partir du cas du grain de blé. Et voilà comment est le raisonnement. Si un grain de blé qu'on enterre nu ressuscite habillé, vous voyez tout de suite la tige, à plus forte raison pour un homme. Et personne ne se rend compte qu'un grain de blé qu'on enterre, il n'est pas mort. Vous avez compris le... Sinon, le blé ne pousserait pas. Alors, personne ne se rend compte de... Alors, j'ai entendu beaucoup de gens qui citent ce raisonnement sans se rendre compte de quoi ils parlent. Alors, Homer Mejita. Je ne voudrais pas citer, c'est des grands livres qui citent ça, des livres contemporains, mais sans se rendre compte de quoi ils parlent. Et alors, le sens est très simple. C'est que la préoccupation de Cléopâtre est très profonde. C'est-à-dire, on sait qu'on va ressusciter. Mais est-ce qu'on va ressusciter avec l'acquis des mérites, des mitzvot qu'on a fait pendant la vie, ou on recommence tout, on efface tout, on recommence? C'est une question très profonde. C'est-à-dire, est-ce que la vie, ça sert à quelque chose? Ou est-ce que c'est un jeu? Et puis, quand on ressuscite nu. Vous avez compris le sens de la phrase? Non, c'est une toute autre préoccupation. Et cette notion de levouche, dans l'hébreu traditionnel, l'hébreu rabbinique, est très importante. Les levouchim de quelqu'un, c'est ses mérites. On étudie ça surtout dans la symbolique, entre guillemets, des habits du grand prêtre. Et pourquoi le sens, par exemple, de cette phrase qui est prise d'un verset de Michelet, « Iyu begadecha levenim »« Que tes vêtements soient toujours blancs ». Vous savez qu'un Talmid Chacham qui a une tache sur les vêtements, c'est pas un Talmid Chacham. Non, c'est pas n'importe quel genre de tache. Mais c'est rentré dans le langage courant, c'est le revab. En arabe, rebab, c'était un instrument de musique, la viole du Moyen-Âge. Rebab, vous vous rappelez ce que c'était? Une musique très très ancienne. Mais rebab, en hébreu, c'est une tâche. Pas n'importe quelle tâche, mais c'est une tâche qui, si on la trouve sur les habits d'un Talmid Chacham, on sait qu'il n'est pas Talmid Chacham. C'est pourquoi quand les Talmid Chacham sont à table, ils réclament des serviettes, parce que sinon, ils risquent de... Ouais. Alors on va voir maintenant ce verset. Ça va comme introduction? Tout ça, c'est pour expliquer la nécessité du biyur. Hein? Alors, prenez notre verset, c'est le verset 5. Be'ever ha'yarden, en deçà du Jourdain. C'est-à-dire, le peuple d'Israël, la génération des fils de la génération de la sortie d'Égypte, et se trouve en Transjordanie, enfin en Jordanie aujourd'hui, en deçà du Jourdain, et se prépare à traverser le Jourdain pour entrer dans le pays de Canaan. Et Israël, c'est le pays de Canaan, du Jourdain jusqu'à la mer, plus la Jordanie, plus Ever Yarden. Ça, vous savez. Hein? C'est-à-dire, toute la Jordanie, ça fait partie des restes d'Israël. Bon, chaque chose en son temps. Il y a aussi d'autres morceaux géographiques. Bon. Ça nous rappelle une histoire. Au temps du mandat, les Arabes se plaignaient aux Anglais, qui étaient les maîtres dans le pays, de ce que les Juifs sonnaient du chauffard à Kippour devant le mur. Et avec cet argument, ils veulent reconstruire le temple, et ça veut dire qu'ils vont nous prendre la montagne du temple, et au point que les Britanniques, dans les dernières années du mandat, avaient interdit qu'on sonne du chauffard devant le mur. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce temps-là. C'est le Rav Segal. Vous avez entendu parler du Rav Segal, qui allait bravement sorti du chauffard, il s'est fait emprisonner, j'allais dire, par le gouvernement israélien. Enfin, c'était à peu près le cas. Et il y a le ministre de la police qui lui avait interdit de sortir du chauffard au côté. Eh bien, je me rappelle, le Rafou nous racontait qu'un des arguments des chefs musulmans, c'était de dire, si on commence comme ça à les laisser sonner le chauffard devant le mur, ils vont finir par détruire la mosquée et construire leur temple. Alors, le Rafou s'était fait convoquer par le gouverneur anglais. Il a dit, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Il a répondu, chaque chose en son temps. c'est historique, ça. Il dit, bien sûr, mais chaque chose en son temps.
Ils ont valé ça?
Hein?
Ils ont valé ça?
Ah oui, ils sont obligés. Bon. Alors, en deçà du Jourdain, Beret Moab, dans le pays de Moab. Ici, il y aurait toute une parenthèse à ouvrir. Le pays de Moab, c'est là où la révélation de la Torah de Moïse s'est arrêtée, dans les plaines de Moab. Et la dernière révélation, il y a trois niveaux de révélation. le Ohel Moed, le Sinaï et Moab. Et Sefer Devarim, c'est la révélation de Moab. Il y a la révélation du Sinaï, les dix commandements, la révélation du Ohel Moed, toute la Torah, et la révélation du Sefer Devarim s'appelle la révélation de Arbot Moab, les plaines de Moab. Or, vous savez que le jour de Shavuot, on lit le livre de Ruth. Quel est le lien ? Moab, très bien. Très bien. C'est un livre, c'est, à part la Torah, c'est le livre de toute la Bible où il y a le plus de mitzvot, le livre de Ruth, et les mitzvot de la Géoula. Comment on réalise la Géoula de la veuve, de celui qui a aliéné sa terre, c'est l'histoire de la Géoula d'Israël, symboliquement, disons, entre guillemets. Et alors, c'est très important de voir ça. Ça se raccroche à Moab de Moïse, Moab de Ruth. Et c'est la Megillah qu'on lit le jour de Shavuot. Et dans Ruth, il y a les trois lettres du mot Torah. Torah, oui. Tav, Vav, 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 Resh, et Ruth, Resh, Vav, Tav. Et Yitro, c'est pas le He, c'est le Yud. Et Yitro et Ruth sont les modèles des convertis qui ramènent ce qu'il faut ajouter à la Torah pour que la Torah soit universelle. Bon, je vais fermer cette parenthèse, j'aurais pas dû en parler si vite, on étudiera ça une autre fois. Alors, Béretz Moab, toutes ces indications sont importantes. Roïl Moshe, alors oui, ça veut dire il a entrepris, Moïse, Béretz, expliqué, et ta Torah, azot, cette Torah, les mots en disant. Il commence, comment il explique la Torah ? En rappelant le récit qui explique pourquoi cette Torah est donnée. Pourquoi cette Torah comme loi est donnée. Il y a une explication de la Torah dans le texte de la Torah, et le mot de Torah a ici deux sens. Dans cette phrase, une explication de la Torah comme loi, dans le récit de la Torah comme récit de l'histoire de ce peuple à qui la Torah a été donnée à cette génération-là, et cette explication est nécessaire pour comprendre la raison de ces lois. Très important de savoir ça, que nous avons un livre qu'on appelle la Torah où il y a deux genres de textes radicalement différents. Il y a le texte législatif, les mitzvot, les lois, et il y a le récit de l'histoire. Or, ce sont deux genres absolument différents. C'est parce qu'on est familier à un livre où s'entremêlent ces deux genres que la familiarité fait croire que ça va de soi. Mais ça n'existe pas, cela, dans la littérature mondiale. Un livre qui mélange ces deux genres, le code et l'histoire. C'est parce qu'on est familier. Est-ce que c'est clair ? Or, tout se passe comme si le texte a séparé les parties des versets qui sont les codes, les lois, et la partie du verset qui est histoire. Il n'y a que trois allusions à trois lois qui sont déjà expliquées dans le récit historique avant que la Torah ne soit promulguée par Moïse à partir du Sinaï. Je vous en donne un exemple, c'est l'interdiction du guide anaché. On nous raconte cela, l'interdiction du nerf de la hanche. Je ne traduis pas un nerf sciatique, parce que ce n'est pas le nerf sciatique. Le guide anaché, il me faudrait toute une parenthèse pour vous expliquer de quoi il s'agit, mais c'est un nerf qui innerve une certaine partie de la bête qui se trouve dans la région de la hanche. Je ne vais pas en parler maintenant. Et la Torah nous raconte que c'est. Elle nous donne cette mitzvah à l'occasion du récit de la lutte entre Jacob et l'ange. Personne ne comprend. Qu'est-ce que ça veut dire, la lutte entre un homme et un ange? On n'a jamais vu ça. Hein? On n'a pas expérience. Et à propos de ce récit, la Torah dit « Alken » et c'est pourquoi « Lo'yurlu bene Israël » les enfants d'Israël ne mangeront pas, et guide anaché, le nerf qui innerve l'ange. Vous avez là un exemple que le récit historique explique les lois. C'est un binyanab, c'est un exemple de principe qui vaut pour toutes les mitzvot. L'explication de chacune des mitzvot se trouve dans une partie du récit historique commence au premier homme qui fut né à la sortie d'Égypte. Mais la tradition de la Torah, de révélation de la Torah, a séparé les deux ensembles, sauf cet exemple qui est un clin d'œil, pour pas qu'on s'imagine qu'on comprenne. Je vous donne un autre exemple, sans citer de source. La raison de « Ve'ahavta le'racha kamocha » se trouve dans le récit de la lutte entre Caïn et Abel. Parce que l'homme est ainsi. Qu'il y a le problème de l'agressivité entre Caïn et Abel, la Torah demande « Ve'ahavta le'racha kamocha ». Oui, voyez le lien. Mais le récit est séparé du... C'est-à-dire, si on veut... Dans le Talmud, il y a la même structure. Vous avez la Haggadah et la Halakha. Dans la Torah Shebichtav, il y a la même structure. Le récit historique et les mitzvot. Vous voyez à quel point c'est parallèle. Okay? Alors, c'est dans le récit historique qu'il y a le biour, l'explication des mitzvot. Est-ce que c'est clair? Et comme il s'agit d'un récit historique, il faut à chaque génération expliquer oralement. Parce que c'est de la nature de l'événement de devenir hermétique dès le lendemain, dès la génération suivante. Et ça, je vous donne un exemple de notre génération, nous sommes privilégiés pour le savoir. À peine une dizaine, une quinzaine d'années après la Shoah, déjà les éducateurs se sont alertés qu'il fallait absolument garder la mémoire. Parce que non seulement la mémoire risquait de se perdre, mais on allait inverser les évidences. Et très rapidement, on s'est aperçu que c'était nécessaire. Actuellement, il y a une bonne partie de l'opinion publique internationale, même des universitaires, qui nient l'existence de la Shoah. Et vous savez ça. Je me rappelle, il y a une vingtaine d'années, non, plus que ça, une trentaine d'années, il y avait déjà dans les lycées français un sondage qui est Hitler. Il y avait, j'ai oublié le chiffre, de proportion de réponses fausses, inouïe. On ne savait plus qui était Hitler. Et vous voyez l'importance de ce commandement, etc.
Mais
ça
n'est pas du tout.
Oui, mais on inventait un star de football, des machins. Mais bientôt, on ne saura pas qui est Ben Gurion. Ah oui, un fou sioniste comme ça. Mais Herzl, on ne se rend pas compte. Vous comprenez le problème auquel je fais allusion. Je vais raconter une expérience que j'ai eue juste après la guerre. J'ai fait partie du comité qui a fondé le mémorial du martyr. Comment s'appelle ça? J'ai oublié. Oui, oui. Qui a été fondé par Schneerson, président Schneerson. Qu'est-ce qui s'est battu pour ça? Vous vous rappelez de ça? Parce que tous les notables juifs voulaient qu'on oublie. La réaction tabou, ce qui s'est passé tellement cauchemardesque qu'on ne peut y penser, il faut oublier. Il s'est battu pour éditer Le Monde juif, c'était son journal, hein, mais il a rassemblé les témoignages, et aujourd'hui, heureusement qu'il a fait ça, on a ce témoignage et cette référence à la mémoire. Je me rappelle, c'était un parent très très éloigné du rabbi d'ailleurs. Vous l'avez connu? C'est vraiment un grand érudit d'ailleurs en plus. Un juif apparemment laïque, mais qui a porté la mémoire d'Israël pour les générations à venir. Et je me rappelle comment il s'était battu pour ça. Nous, pour nous, c'était pas nécessaire d'avoir à nous convaincre, mais c'est là qu'on s'est aperçu à quel point, si on se rappelle pas, on oublie. C'est pas une blague de ce que je dis là, mais c'est un verset de la Bible. Zechor al tishkar. Rappelle-toi, n'oublie pas. Parce que si tu te rappelles pas, tu oublieras. Et c'est un fait. Alors, voyez ce qui se passe. Allez, je voudrais rattacher cette indication à quelque chose qui concerne la Gada de Pessah. La Torah elle-même prévoit « Ki shalcha bincha mahar lemor » lorsque ton fils demain t'interrogera en disant « Ma avda zot lachem » de quoi il s'agit. Vous voyez, la génération d'après, la génération de la sortie d'Égypte ne comprend plus Pessah. C'est la Torah qui le prévoit et qui nous explique que c'est normal. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit là, okay? Alors voilà ce que je voulais indiquer par rapport à ce verset. Ensuite, nous allons étudier. Mais c'est important de le mettre en évidence. Moïse doit expliquer la Torah dès qu'il parle au fils. La Torah qu'il a dit pour les pères, il doit l'expliquer pour les fils. Vous y êtes? Et c'est là qu'on va avoir une première surprise dans le commentaire. Prenez Rashi. Attendez, quelle heure il est? Est-ce que quelqu'un peut aller me chercher ma loupe quelque part? Tu as-tu les clés? Ben alors ça doit être ouvert parce que j'ai pas ma veste là. Sinon, tu demandes à Cathy. Oui, bon, attends, je vais me chacouiller les gars. Attendez, c'est un sondage. Vous avez pu m'entendre bien? Ça va? Bon, je vais féliciter mon dentiste. Vous savez qu'à un dentiste, il n'y a pas de dentiste chez vous. Non, à part que c'est un arracheur de dents. C'est un docteur escroc.
Le livre de Devarim, commencé par un Aleph.
Oui, Aleph à Devarim. Qu'est-ce que vous en tirez?
Je me demande si les autres commencent par un
aller. Tous les devarim commencent par un aller.
D'accord.
Non, je veux dire pourquoi. À la création, ça commence par un bête.
C'est ça.
Et ça s'appelle les Mahamarut. La parole la création, la parole du commencement, c'est Amor. Alors que la parole de la révélation, c'est Daber. Et la première parole de la révélation, c'est Aseret Adiberot. Anochi, ça commence par un aller. Bon, par rapport à cette question, j'ouvre une parenthèse. Pour dire le mot dire, parler, nous avons entre autres deux termes principaux en hébreu. Amour, c'est parler gentiment, parler doucement. Daber, c'est parler durement. Alors, amour, dire, daber, parler. Et puisqu'on est d'ailleurs à la veille de Tisha B'Av, Dibré, Irmiya, Ben Chilki, Ben Zoécha. Dibré, Irmiya ou Ben Chilkiya. J'étais dans l'Aftara de. Du Shabbat Hazon, mais l'Aftara de la semaine dernière, c'était Irmiya.
C'était la semaine dernière.
Non, on était refroidi, donc c'était pas.
Non,
c'était
refroidi, c'était Shimon.
Refroidi, c'était quand c'était Shabbat dernier. On lit deux versets. On lit l'Aftara de Rosh Chodesh, mais on lit le premier et le dernier verset de l'Aftara de la semaine. Bien, un jour il faudra qu'on ouvre un Talmud Torah pour que vous appreniez tous ces.
Qu'est-ce que
de, j'ai dit l'inverse.
Oui.
Oui.
Oui,
parce que j'ai dit. Oui. C'est vrai, vous avez raison. Et alors, les Devarim, c'est, et on apprend de ce chapitre de Jérémie, c'est des tochachot, réprimandes. Dvarim, c'est Dvarim Kashim. Les Dvarim, c'est les paroles dures. Alors la Amira, c'est la parole douce. Le monde est créé. Attention, je schématise beaucoup, parce que c'est un problème beaucoup plus large. Le monde est créé par les 10 paroles du commencement qui sont des Asara Mahamarot. Alors que la Torah est révélée par les 10 paroles de la loi qui sont les Aseret Advarim. Oui. Et le monde commence par Bet, qui est la première lettre du mot Bracha. Et il y a un Midrash, des Otir de Rabbi Akiva, qui pose la question pourquoi la Torah ne commence pas par Aleph. Et c'est une question importante, c'est pas une question comme ça de Talmud, infantile. Et on pourrait se demander, bon, puisque l'alphabet commence par Aleph, pourquoi ça ne commence pas par Aleph, à ce niveau-là. Si la Torah avait commencé par Aleph, le verset aurait porté, et ça se relie à un autre problème très difficile, le premier verset aurait porté « Elohim bara bereshit ». Et la première lettre d'Elohim, c'est Aleph. Alors voilà comment, et ça se relie donc à une autre question, pourquoi il y a « Bereshit bara Elohim » et pas « Elohim bara bereshit ». Et alors, je vous trie parmi les midrashim, parce que c'est un problème très ample, et alors la réponse nous est donnée dans les Otsir de Rabbi Akiva, de la manière suivante. Toutes les lettres de l'alphabet se sont présentées devant Dieu pour avoir le privilège de commencer la Torah. Elles se présentent de Tav jusqu'à Aleph. Et alors, le Tav plaide en disant « Je commence tel ou tel mot noble, important, je veux commencer, que la création du monde commence par moi. » Tav, Shin. Chaque fois qu'il y a l'alphabet dans l'ordre inverse, c'est une notion de tikkun. C'est une notion, il y a, la création, ça va de Aleph à Tav. Et le tikkun du monde créé, ça va de Tav à Aleph. Retenez bien cela. De Dieu à l'homme, c'est de Aleph à Tav. De l'homme à Dieu, c'est de Tav à Aleph. Et je ne sais pas si vous avez encore les anciens livres sfarades qu'on appelle Tefilat HaKodesh. Vous voyez de quoi je peux parler de Tefilat HaKodesh? Ça vous dit bien? Bien. Alors vous allez chercher dans la prière du Rosh Chodesh. Vous allez voir qu'à la fin, après le Rosh Chodesh, on lit le Alenu Neshabéar dans l'ordre. On commence par Alenu Neshabéar, Vadonakol, jusqu'à Aod, qui est le dernier mot. Et ensuite, on le relit dans l'autre sens, depuis Aod jusqu'à Alenu. Vous n'avez jamais remarqué ça. Mais ouvrez un Tfilat HaKodesh. Et alors, vous lirez qu'est-ce que le texte donne, comme ça, en lisant de l'autre côté. Bon, je referme la parenthèse. Alors, quand on arrive au Bet, Dieu dit, c'est par toi qu'on va commencer, parce que la bête commence le mot bracha. Et alors le halaf demandez-moi. Dit-on, on ne peut pas, parce que tu commences le mot « arul », c'est-à-dire « maudit ». Alors le halaf était triste, et Dieu, pour le consoler, lui a dit « mais on commencera les 10 commandements avec toi ». Quel est le sens de ce midrash ? Ça veut dire, si on avait commencé la Torah par halaf, on l'aurait commencé par la Midat HaDin, qui est le mot de Elohim, Midat HaDin. C'est-à-dire le monde aurait été sous le signe de la rigueur absolue. Il aurait été maudit. D'une certaine manière. Alors le halaf fait cacher derrière le bet, tout dans le monde apparaît d'abord sous forme duel et l'unité est cachée. C'est un peu clair ça. Je donne un exemple. J'ai beaucoup étudié ça en étudiant les fonctions de l'intelligence. Le cerveau a deux côtés, c'est plus compliqué que deux, il y en a quatre, mais enfin peu importe, il y a les deux lobes du cerveau. Nous pensons avec un cerveau duel, je n'ai pas dit double, mais duel. Dès qu'on pense une notion, la notion opposée qui arrive, ce qu'on appelle l'antithèse. Okay, c'est comme ça que fonctionne la pensée humaine. La pensée humaine naturelle est dualiste. Le monisme est caché. C'est pour ça, Shema Israël, Hashem Echad, c'est pas évident. Ce qui est évident, c'est le jour et la nuit. Et c'est pas évident que ce soit un. Bien que Vayre, Vayboker, Yom Echad. Ça, c'est caché. Le Aleph est caché derrière le bête de la création. Est-ce que c'est suffisamment clair? Bon, vous devinez, c'est beaucoup plus ample que ça. Et alors, je vous donner une indication. Ça nous vient de l'enseignement d'un très grand kabbaliste qui s'appelait Abou Lafia. Vous avez entendu parler de Abou Lafia. Alors, il enseigne ceci. Vous avez, prenez deux mots. Aleph, je l'écris comme ça. J'ai pas appris avec l'écriture, j'ai appris avec l'écriture rachis. Mais alors, quand le halaf rentre dans le monde, il rentre d'abord par le P, ensuite par le lamed, ensuite par le halaf. Est-ce que c'est Pélé? C'est un miracle. C'est-à-dire, quand le halaf se dévoile, il y a Pélé. Entendez en hébreu, okay, le halaf est caché. Et c'est les jours où il se dévoile qu'on dit le halel. Bon, je referme la parenthèse. Et alors, pourquoi j'ai parlé de tout ça,
hein? Parce que je
vous ai demandé pourquoi. Ah oui, alors. Alors, on referme la parenthèse. Alors, prenez Rachid sur ce verset 5, que je vois qu'elle a l'idée. Prenez Rachid. Vous y êtes, Rachid sur le verset 5. Roïl. Rachid dans une nuance d'abord sur le mot de Roïl, ça veut dire entreprendre dans le sens de consentir à faire que. Roïl. Dans les mots modernes, Toïl le Bakasha, vous avez entendu ces mots. Et Ber et Torah, Beshivim Lashon Pirash Laim. Alors là, on est en plein mystère, entre guillemets. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a expliqué, il a donné le biou, il leur a expliqué, il leur a commenté en 70 langues. Qu'est-ce que veut dire Rashi? On a déjà appris la nécessité d'expliquer au fils la Torah du Père. C'est-à-dire d'expliquer à la génération qui rentre au pays Canaan la Torah qui a été donnée à la génération de la sortie d'Égypte. La génération de la sortie d'Égypte a assisté aux événements. Mais la nature des événements, comme j'ai dit tout à l'heure, que dès que le temps passe, l'événement est incompréhensible. La tradition d'Israël est une tradition qui se base sur des événements d'histoire, pas sur des raisonnements. C'est pour ça que toutes les prétentions de judaïsme rationnel, je ne vais pas dire rationaliste, ça ne tient pas debout. On ne réinvente pas cette vérité-là. Parce que si on n'en a pas la mémoire, on l'a perdue. Je ne sais pas si c'est clair. Il y a des textes qui montrent qu'il y a des cas particuliers de grands maîtres qui sont capables par leur raisonnement de restituer ce qui s'est perdu dans la mémoire. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont le reste de la mémoire. Alors ils peuvent restituer les trous éventuels. De génération en génération, il y a énormément de connaissances qui se perdent. Ici, j'ouvre une petite parenthèse, ça peut vous paraître paradoxal. Je me base sur un des versets de Kohelet, l'Ecclésiaste. C'est Michelet ou Kohelet? Le verset dit ceci. En parlant de Asot Sfarim Enkes, faire des livres sans fin. Le pshat, c'est faire des livres sans fin, c'est pas bien. Et on a l'impression que lorsqu'on a fait un livre, c'est l'indice qu'on a ajouté des connaissances. En réalité, du point de vue de la tradition, c'est l'inverse. C'est parce qu'on a perdu des connaissances qu'il faut écrire des livres. C'est parce qu'on a perdu une capacité de mémoire qu'il faut mettre par écrit. Réfléchis bien à ça, c'est l'inverse. Il y a une déperdition de contenu de mémoire de génération en génération qu'on essaye de compenser par la mise par écrit. Et alors les gens croient, et vous avez compris ce que je veux dire, vous savez, les modernes croient qu'ils ont ajouté la sagesse à la sagesse des anciens. C'est le problème du chidouche dont je n'ai pas parlé ce soir. En réalité, nous avons une image dans le Midrash qui montre bien cela. Ça s'appelle un nain monté sur des épaules de géant. Alors il va un peu plus loin. Pourquoi? Parce qu'il est monté sur une épaule de géant. Mais lui, c'est un nain. Je sais pas si c'est clair. Vous voyez l'image? Hein? C'est joli. Hein? Oui, c'est un nain. Mais c'est parce qu'il y a un géant sur lequel il est monté qui va un peu plus loin. Ça se relie à beaucoup d'expressions traditionnelles. On dit par exemple « Aharon, Aharon, Habib ». Oui, mais s'il y a « Aomer, Rishon, Rishon, Aharon, Aharon ». Si le Aharon, si Aharon, c'est-à-dire le dernier, prend conscience qu'il n'est que le dernier, alors il est mieux que le premier. Il est Habib, plus mieux. Okay. Pourquoi? Parce qu'il est le dernier d'un premier. Mais c'est le premier qui est le premier. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Vous avez bien compris? Je vous donnais ça dans un autre. Je sais bien que ça semble aller à contre-courant la mentalité de la culture contemporaine. Okay. Mais je pourrais vous raconter énormément d'expériences intellectuelles qui montrent cela. En particulier, j'ai suivi pendant 2 ans les cours de Lévi-Strauss. Vous avez entendu parler de Lévi-Strauss. Et qui a surtout étudié la mentalité dite primitive. Et c'était vraiment un très grand professeur, un très grand intellectuel, un ethnologue de classe. Et bien, il montrait cela, qu'on parle des primitifs comme s'ils étaient des arriérés. Mais il faisait découvrir que chez les primitifs, il y a aussi des arriérés. Non, primitif, ça n'a rien à voir qu'arriéré. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Okay. Mais qu'en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que les modernes se prennent pour plus jeunes que les anciens, qu'ils appellent les vieux, alors que c'est l'inverse. Les anciens étaient plus jeunes que nous. C'est nous qui sommes accablés par le poids des siècles. On ne se rend pas compte de ça. Vous avez compris? Essayez de remonter un peu dans l'imagination le temps de la mémoire. Ils étaient beaucoup plus jeunes que nous. Alors, bien sûr, ça se compense. Il y a une Torah qui se rapproche de celle du Mashiach, et pendant ce temps-là, elle s'éloigne de celle de Moïse. Plus on est proche de la Torah de Moïse, on est loin de la Torah du Mashiach, mais plus on est loin de la Torah de Moïse, on est plus proche de la Torah du Mashiach. Il y a une tradition qui dit, chez les kabbalistes, au milieu, il y a le Maïmonide. Déborah, Maïmonide a été si... Le problème de Maïmonide est si difficile, parce qu'il est juste au milieu, entre Torah de Moshe et la Torah du Mashiach. Mais Moshe, Ad Moshe, le comme que Moshe. Lui, il est au milieu. Ah. Qui a dit Gilgul? Rien à voir. Non, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais ça n'a rien à voir. Il y a une différence entre Moshe Rabbeinu et Rabbeinu Moshe. Rabbeinu Moshe, c'est Maïmonide. Et Moshe Rabbeinu, c'est Moïse. Bon. Alors, je vais faire la parenthèse. Mais voilà qu'on apprend quelque chose d'autre. Que Moïse a expliqué la Torah en 70 langues. Ça veut dire qu'il y a un sens de la Torah qui correspond à chacune des 70 nations, à chacune des 70 langues. Il y a ici la notion que la Torah est universelle. Mais la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ce sens de la Torah en 70 langues est donné au Fils, alors que la Torah des Pères a été révélée au Sinaï en 70 langues, mais a été entendue en hébreu par les Pères, mais les Fils, il faut la leur expliquer en 70 langues. Alors c'est ça que je voudrais approfondir, si on a encore un peu de temps. Je vous ai fait préparer un texte que je voudrais qu'on lise très rapidement. Vous l'avez ? Alors, c'est dans le chapitre 27 de Dvarim. Alors, vous ouvrez le livre de Dvarim au chapitre 27. Voilà, il s'agit de... Dans la paracha de Kitavo, alors vous allez prendre au verset 8. Dans la paracha de Kitavo, la Torah demande que lorsqu'Israël a traversé le Jourdain, arrive dans le pays, la première chose qu'il doit faire, c'est d'écrire sur des pierres toute cette Torah. Et voilà comment le verset s'exprime. J'attends que vous ayez le verset sous les yeux. Vechatavta al avanim, verset 8 du chapitre 27. Et tu écriras sur les pierres. Et kol divrei haTorah hazot ba'eretev. Toutes les paroles de cette Torah, ba'eretev. Vous le même mot de ba'er, bien expliqué. Prenez Rashi là-dessus. Ba'eretev. Qu'est-ce que dit Rashi? En 70 langues. Alors, je vous ai fait photographier le commentaire de Torah Tmima qui pose la question suivante. Comment c'est possible d'écrire sur ces pierres-là, il y avait 12 pierres, toute la Torah en 70 langues? Il n'y a pas la place. Alors, là-dessus, le Torah Tmima, je n'ai pas le temps de suivre avec vous le texte, mais vous le lirez vous-même, il est là, le texte du Torah Tmima, je vais vous l'expliquer. Suivez bien. Torah Tmima pose la question suivante. C'est impensable que sur ces 12 pierres ont été écrites toute la Torah et en 70 langues. C'est impensable. Par conséquent, ça veut dire autre chose. Il se base sur le fait qu'il n'y a pas tu écriras sur les pierres cette Torah et ta Torah azot, mais qu'on dibré à Torah azot. Les paroles de cette Torah. Il dit les paroles de cette Torah, ça concerne les 10 commandements. A dit les 10 commandements en 70 langues, on peut comprendre que sur 12 pierres, on est à la place de les écrire, mais pas toute la Torah. Et donc, première précision, ce verset-là dans Devarim, ça concernerait, d'après le Torah Tmima, les 10 commandements, à cause du mot Devarim. C'est clair? Bon. Et alors, le Torah Tmima, vous le verrez lui-même, cite notre verset à nous du début du livre de Devarim, c'est-à-dire le verset 5 du chapitre 1. Il nous dit que là, il faut comprendre que ça veut dire Beshivim Panim. Et qu'est-ce que ça veut dire Beshivim Panim? Vous voyez, il y a différents, deux expressions différentes. Shivim Lashon, c'est les 70 langues. Shivim Panim, la Torah, ça veut dire 70 points de vue. Panim. Okay. Ça veut dire que dans notre premier verset, le Shivim Lashon de Rashi, ça ne veut pas dire les 70 langues dans le sens de Safa, des langages différents, mais Shivim Lashon, 70 manières d'exprimer la même chose dans l'hébreu, les 70 panim. Est-ce que la différence est claire en français? 70 points de vue. Alors donc, nous avons une explication du Torah Tmima sur Rashi, mais qui ne résout pas encore le problème. Pourquoi? Parce que Rashi n'a pas dit Shivim Panim, il a dit Shivim Lashon. Vous avez compris l'étude talmudique, il y a là. Mais on a besoin du Torah Tmima pour expliquer le Kol Divrei HaTorah du deuxième verset. Et le Torah Tmima a raison de dire que le deuxième verset concerne les 10 commandements, tandis que dans l'explication orale de Moïse, on peut retenir le fait que oralement, Moïse a pu expliquer dans les 70 langues, et c'est ça qu'on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Et on n'a pas la difficulté qu'on a sur la Torah écrite sur les pierres. Vous y êtes? C'est clair tout ça? Donc, alors je reviens donc au problème. Ça indique le caractère universel de la Torah pour la génération qui va rentrer dans l'histoire d'Israël. La génération de la sortie d'Égypte est une génération qui est dans la méta-histoire, disait M. Neher, au-dessus de l'histoire. Effectivement, c'est une génération de parenthèse dans l'histoire. Il y a une parenthèse du problème économique de la société d'Israël. La société d'Israël est à l'abri du problème économique de toute société. Elle est, c'est la génération des pères qui a été appelée à la révélation du sens de la Torah dans, du point de vue du monde à venir, du point de vue de la Torah des anges. J'emploie ces périphrases. Voilà ce que je veux dire. C'est que, voilà quoi je pense dans la Gemara de Sanhedrin, on pose la question suivante. Est-ce que la génération du désert aura droit au monde à venir? Est-ce qu'elle a chélek la olamaba? Il y a une discussion. Certains disent qu'elle n'a pas droit. Et on pense, puisque c'est une génération de la faute. Et l'explication plus profonde, étant donné que les gens entraînent les restes d'Israël, ils ne peuvent pas aller à olamaba. Parce que pour aller à olamaba, il faut passer par les restes d'Israël. Ça, c'est pressionniste. Et mais d'où on apprend ça? D'une chose que vous connaissez. Kol Israël, Yishlaïm, Prima olamaba. Et d'où on apprend un verset qui dit. Parce que Aretz, c'est la porte de Olam Haba. Vous avez compris? Et comme sa génération n'est pas rentrée dans Eretz Israël, première opinion, elle n'a pas Olam Haba. Mais il y a une opinion qui dit, elle a Olam Haba. Elle a chélek la Olam Haba. Je vous donne un enseignement des kabbalistes à ce sujet. Et elle a Olam Haba déjà. Et ça explique en même temps l'autre opinion qui dit qu'elle n'a pas besoin d'avoir chélek la Olam Haba comme ceux de la fin des temps. Parce que direct, elle est rentrée à Olam Haba. Parce que la génération qui a été appelée à la révélation. La Torah de cette génération-là est une Torah d'Olam Haba. C'est une Torah en dehors de l'histoire terrestre. Est-ce que c'est clair ce jeu-là? Et c'est la raison pour laquelle il ne voulait pas rentrer en Eretz Israël. Il dit, on est mieux là-haut, dans le désert. Vous avez compris un peu le problème. Il dit quoi? Ils ont pas compris comment ils leur disent. Il faut rentrer dans le pays et fonder des kibbutzim. On est tellement bien dans les yeshivas. Okay. Il n'y a pas trop de problème. Okay. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Les chassidim m'ont beaucoup enseigné là-dessus. Que cette génération-là, nous sommes incapables de comprendre leur histoire. Et c'est pour ça que quand on lit, c'est invraisemblable. Une génération de géants qui étaient au Sinaï et qui se font un veau d'or, et puis qu'ils demandent des cailles, et qui demandent de l'eau, et qui jettent des pierres. C'est incapable de comprendre ces choses-là. Okay. Et alors, vous avez compris, j'ai beaucoup schématisé, mais vous comprenez un peu la logique de ce mirage. Ça veut dire que c'est la génération des fils qui rentre dans l'histoire, qui a besoin de savoir quelle est la Torah pour l'histoire des hommes, et donc d'être capable de dire la Torah dans les autres langues. Vous avez remarqué que les Juifs sont très linguistes, je ne sais pas comment dire ça en français, sont très friands de langue. C'est plus que polyglotte, ils sont vraiment des maîtres des langues. J'ai remarqué ça chez un de nos maîtres contemporains, qui est le professeur Lévinas, que vous connaissez, qui est maintenant très âgé, que je lui prédis. Il a une maîtrise des langues, quelque chose d'extraordinaire. J'en ai parlé souvent avec lui, il dit, c'est pas étonnant, c'est très juif russe. Pas que les juifs russes maîtrisent les langues de manière... Il a un français admirable, alors qu'il vit en russe, il n'y a pas de doute. Mais il a un français admirable, il a un bel hébreu, et puis il parle allemand, il parle russe, et quand il parle anglais, on le comprend. Non mais c'est quand même quelque chose. Et ça, j'ai remarqué, c'est beaucoup de juifs sont dans les universités des professeurs de linguistique, de structuralisme, de, je sais pas comment dire, de... Vous connaissez un professeur qui s'appelle, il est en France, Adjedj, un grand spécialiste de toutes les langues du monde. Vous connaissez ça? Hein, lui. Oui, en réalité, il en connaît bien trois ou quatre. Mais... Et c'est assez. Je le cite, vous voyez de qui je parle? Je le cite parce que c'est très typique. Hein. Et je vois la génération de nos pères. Ils avaient une aisance dans les dialectes dont ils se servaient, quelque chose d'extraordinaire, alors qu'ils n'ont jamais allé dans les universités, ils n'ont jamais allé dans les travaux pratiques de tout ce que vous voudrez, mais de ces nuances de linguistique extraordinaires en judéo arabe, en espagnol, en judéo espagnol, dans ce patouette algérien où il y avait du français, de l'italien, de tout mélangé, mais alors avec une science, des nuances, ça s'est perdu, c'est dommage, c'était une culture extraordinairement nuancée et riche. Bon, eh bien, c'était très juif ça. Et en général, les goïms, à travers les siècles, ont toujours pris des juifs comme interprètes dans toutes les chancelleries, les ministères, chez les rois, chez les empereurs, chez les... Bon, bref. Ce sont les juifs qui ont été les traducteurs des grands philosophes grecs pour les arabes, et inversement, les traducteurs des grands philosophes arabes pour les chrétiens, pour les juifs. Bon, et il y a quelque chose de cet ordre. Je voulais vous citer un exemple que je vais faire très rapidement dans l'histoire de Joseph. Parce que Joseph et Moïse ont deux personnalités très analogues, bien qu'inversées. Je vous le dis très très rapidement. Joseph a été l'hébreu qui s'est mis au service de l'universel, et la Torah va indiquer que s'il est arrivé ou il est arrivé au trône du Pharaon, c'est parce qu'il était, il maîtrisait les 70 langues. Et puis, ça a été repris par les chrétiens. Le jour de la Pentecôte, il ne parle pas de la révélation du Sinaï en 70 langues, il parle des langues de feu sur les apôtres qui leur ont révélé les 70 langues. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Qui connaît la Bible chrétienne? Oui, vous voyez ce que je veux dire. Les langues de feu de la Pentecôte sur les apôtres. C'est pris du Midrash sur Joseph. Alors je vous donne tout de suite cette référence. Vous la noterez, c'est dans Bereshit, chapitre 41. Ça y est, là-bas, verset. Vous ne pouvez pas acheter des appareils silencieux. Verset 44. Voilà ce que dit le pharaon à propos de Joseph. Voyez paro et Yosef. Et le pharaon dit à Joseph : Ani paro, je suis le pharaon, ou viladecha, et à part toi, lo yarimi shetiado. Personne ne lèvera sa main, vedra ou son pied, c'est les expressions qui disent la souveraineté, Bechol Eretz Mitzrayim, dans tout le pays d'Égypte. Voilà ce que dit la Gemara à ce sujet. Si vous voulez noter, c'est dans Tzota 36b. À part toi, voilà, le pharaon proclame, il n'y a que lui, Joseph. Pourquoi? Amar Rabbi Chiya Baraba, Amar Rabbi Yochanan. Bechara, Shama, Parol, Yosef, Ubladecha, Yari, Michet, Yado, et Traglo. Au moment où pharaon a dit à Joseph, à part toi, personne n'aura de souveraineté, un mot a terminé par eux. Les astrologues de Pharaon ont dit, « Eved, chez la Chorabo, Be'esrim Kesef, Tamshilewa Alenu, un esclave que son maître a pris pour 20 pièces d'argent. » Vous voyez déjà les pièces d'argent dans les évangiles de Judas qui vend le fils de Joseph. Vous voyez, c'est toutes ces reprises qu'il y a dans... Bon, je reviens. Tu vas le mettre comme dominant sur nous. Amar Lael, Gounine Malchut Aniroebo. Je vois en lui les capacités royales. Amrolo, Imke Niheyodea Veshim Lachon. Ici, il en est ainsi. Il faut qu'il connaisse les 70 langues. C'est ce que les sages du Pharaon ont dit au Pharaon. Ba Gabriel Velimdo. L'ange Gabriel est venu et lui a enseigné les 70 langues. Velorave. Kagamar, et avant même qu'il ait terminé, aussi flo otachat mishemo shakashbohu belimed. Et il lui a ajouté une des lettres du nom de Dieu et lui a enseigné, chez Nehemar, d'après ce qu'il y a dans un verset d'Epson, Edut bi Hosef Samo, Betseto aleret mitzraim, sfat lo yadarti eshma. Voilà, il y a un verset dans l'Epson 81 que l'on dit à Rosh Hashanah, en parlant de Joseph, Edut bi Hosef Samo. Il a mis un témoignage en Joseph. Et le mot de Joseph n'est pas écrit Yosef, Yud Vav Samer P, mais Yehosef. Yehosef. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Le He, une des lettres du nom de Dieu, a été ajoutée à Yosef. Et voilà ce que le Midrash dit. Il lui a ajouté une lettre du nom de Dieu et il a pu lui apprendre les 70 langues. Et le verset dit un témoignage.